Viggo Mortensen en invité exceptionnel cette semaine et un focus sur The Fall Guy, la grande comédie d'action de l'année. C'est le programme de cet épisode du podcast. Séance tenante, saison 3, épisode 18. C'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Je suis accompagné aujourd'hui de Robin, bonjour.
Bonjour Alexis.
Et Lisa, bonjour.
Salut Alexis.
Comment allez-vous?
Ça va et toi?
Très bien, très bien. Très bien, je te remercie Robin parce que tu as failli pas demander et toi.
Si,
et
si.
L'ambiance aurait été un peu délétère tout de suite. En tout cas, un riche programme cette semaine parce qu'on va partir à la rencontre de Viggo Mortensen.
Et oui.
Très riche programme.
Est-ce que tu es content?
C'est le héros
j'en
de
serai
Robin.
Ému.
Est-ce que tu connais Viggo Mortensen? Tu vois un peu sa vie, son œuvre?
Je visualise un petit peu, ouais. Seigneur des Anneaux, je crois.
Ouais, je crois en effet.
Anneau,
Aragorn,
Anneau.
Bien sûr.
Aragorn en personne sera l'invité
oui,
du podcast pour nous parler de son nouveau film Jusqu'au bout du monde. Et on parlera également de The Fall Guy, la pépite d'action signée David Leitch avec Ryan Gosling et Emily Blunt. On commence cet épisode juste. Parce qu'on va encore... Enfin, maintenant, on fait gagner des places de cinéma dans les épisodes. On a envie de faire des petits cadeaux,
oui.
Comme ça. Tu veux jouer?
Bien sûr.
T'as pas le droit. Hop là.
Ah,
allez. Non, parce qu'après, il y a du favoritisme. On vous fait gagner cette semaine deux places de cinéma, comme la semaine dernière. Pour participer, c'est très simple. Vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Spotify directement dans l'épisode du jour ou Apple Podcast sur la page du podcast. Un gentil avis sur le podcast. Vous dites pourquoi vous aimez les interventions de Lisa? Pourquoi vous dites les bonnes raisons de Robin? Elles sont sympas, mais elles pourraient être un peu mieux. Mais bon, ça, c'est... C'est assez à vous de le dire.
Je me suis dit si t'as eu un truc.
J'ai pas de message à faire passer. En tout cas, vous mettez. Vous me laissez travailler. Vous mettez 5 étoiles et un avis sur le podcast sur l'une de ces deux plateformes. Et ensuite, vous allez sur l'Insta de Pâté France. Vous cherchez la petite publication du podcast de la semaine. Et en commentaire, vous mettez simplement le pseudo utilisé pour envoyer les commentaires et les 5 étoiles. Vous mettez ça en commentaire et on fera un tirage au sort parmi les participants la semaine prochaine. Mais avant de partir à la rencontre de Viggo Mortensen, avec qui nous parlerons de son tout nouveau film, et très réussi d'ailleurs, Jusqu'au bout du monde. On se parle, pour commencer, de, donc je disais tout à l'heure, de la grande comédie d'action de l'année, ou en tout cas de ce début d'année, c'est The Fall Guy, un film à découvrir en IMAX, en KDX, en ScreenX et en Dolby Cinema chez Pathé, réalisé par David Leitch avec Ryan Gosling et Emily Blunt.
Tom Ryder, la plus grande star de films d'action du monde, a disparu. Il faut que tu le retrouves, sinon le film de Jodie est fichu.
Pourquoi moi?
Parce que t'es cascadeur. Personne ne va te remarquer, c'est ton boulot. Le prends pas mal.
Ah bah, un peu, si.
David Leitch, un réalisateur que l'on connaît bien, qui a réalisé récemment Bullet Train, mais qui était aussi à une époque la doublure cascade de Brad Pitt sur The Fight Club, ou encore 3 et Mr. and Mrs. Smith pendant assez longtemps. Il a ensuite été assistant réal de seconde équipe. Hein. Seconde équipe, c'est ceux qui font notamment en général les grandes scènes d'action et de cascade sur certains grands projets. Il a ensuite réalisé, alors de manière un peu non officielle, je crois.
Il a co-réalisé,
mais il n'est pas crédité,
voilà.
Tout à fait, John Wick. Atomic Blonde ensuite, Deadpool 2, Fast and Furious, Hobbs and Shaw, Bullet Train et aujourd'hui The Fall Guy. On ressent quand même dans cette filmographie un amour pour l'action, pour
les grandes scènes de continuité totale.
C'est quand même limite.
C'est vrai qu'il faut l'œil. Il faut avoir l'œil pour remarquer ça, en effet. Mais ça, c'est pour ça qu'on est là. C'est des avis d'experts aussi. Non, mais il y a un vrai truc qui culmine, je trouve, avec The Fall Guy. C'est sa passion pour l'action au cinéma. Et The Fall Guy, une vraie déclaration d'amour au genre. En
et
quelques mots,
au cascadeur,
et surtout au
cascadeur,
métier,
bien
ouais.
sûr, et au métier, parce que c'est un film, c'est une adaptation de L'homme qui tombe à pic de la série télé, remise au goût du jour donc par David Leitch. En quelques mots, qui se lance dans une petite description de l'histoire?
C'est donc un cascadeur qui, après une grosse blessure, s'éloigne des plateaux de cinéma et par un heureux hasard va essayer de reconquérir la femme qu'il aimait à l'époque, qui est devenue réalisatrice et qui le voudrait sur son nouveau film.
Et il y a d'un seul coup une histoire de...
Et voilà, après derrière les rebondissements vont commencer où on va comprendre très vite que cette simple histoire de cascadeur va un peu plus loin que ça.
C'est quel plaisir de cinéma, cette découverte-là de The Fall Guy pour vous deux?
Moi, je pense que la première raison fait de découvrir The Fall Guy au cinéma, c'est que, on l'a dit, c'est une déclaration au métier de cascadeur par lequel David Leitch est rentré sur les plateaux de cinéma. Mais c'est aussi, je trouve, en fait, ce que j'aime là-dedans, c'est cette manière de limite briser le quatrième mur et en fait de nous montrer les coulisses d'une grosse production. Même si après, effectivement, comme le pitch
Robin... On imagine que
Robin,
c'est un peu romancé, ouais.
Bien sûr, c'est romancé. Et puis, comme le pitch Robin, ça va, la seconde partie du long métrage va nous emmener vers autre chose, vers un truc un peu plus film, action, même d'espionnage dans un sens. Enfin, voilà, il va y avoir plus de rebondissements, mais c'est ça en fait qui fait. La première partie, t'es vraiment sur les plateaux de tournage. J'ai une effervescence en fait d'un tournage et comment, c'est quoi être un cascadeur et c'est quoi être directeur de la photo, c'est quoi être réalisateur ou réalisatrice. Donc en fait, c'est ça, en fait, je pense, qui fait le sel aussi de cette réalisation et de cette comédie.
Oui, l'immersion dans le tournage même d'un film, et d'un film à gros budget quand même, et d'un film avec des cascades, effectivement.
Ouais, et puis c'est... Alors du coup, en plus, t'as plusieurs strates de films. T'as le film de science-fiction qui se prépare, dans lequel t'es embarqué dans les coulisses. T'as ce film de thriller et de gangster, d'espionnage.
Ouais, qui se met en place.
Voilà, t'as cette romance en même temps. Donc c'est marrant de voir un peu tout ce mélange, et avec de la comédie, évidemment, de voir tout ce mélange des genres, en fait, culminer petit à petit.
Et puis ce qui est génial, c'est aussi le fait que dans cet hommage-là au cascadeur, il montre absolument tout à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a des scènes d'action, enfin, des courses-poursuites en voiture, en hélicoptère, en bateau, à pied, en courant, enfin, dans des appartements.
Combats menus,
dans
des combats avec des armes.
C'est ça, dans des appartements, dans des déserts. Enfin, il y a vraiment y a un truc sur la géographie des lieux et sur l'utilisation presque on dirait presque qu'il a ouvert son coffre à jouets et qu'il s'est dit, OK, je vais m'amuser avec ça, et je vais les mettre dans toutes les situations possibles, imaginables. Ils n'ont plus qu'un train, mais un train, il l'avait déjà fait dans Bullet Train l'année dernière. Enfin, donc je pense qu'il a un peu essoré le genre, mais je trouve que c'est une vraie force du film aussi, cette pluralité des scènes d'action où ça bouge tout le temps. Je trouve qu'il y a un rythme fou là-dedans, et puis au milieu de ça, il y a deux acteurs qui sont super, qu'on voit de plus en plus à l'écran, enfin en tout cas qu'on revoit Ryan Gosling plus que d'habitude, parce que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas fait grand chose au cinéma.
Depuis Blade Runner 2049, il était un peu plus discret.
Oui, il avait fait The Gray Man par Netflix, en fait, qui était déjà...
Mais je parle vraiment du ciné, et là, le fait de revoir Gosling, en plus dans cette confrontation avec Emily Blunt...
Oppenheimer et Barbie, en plus
c'est la suite du Barbenheimer.
C'est vrai, les deux seconds rôles...
Bah oui, c'est ça. Donc t'as encore un peu cet aspect encore plus méta, en fait, du film et Quatrième Mur. Je trouve que leur dynamique fonctionne bien.
Ouais, non, je suis d'accord. Elle est vraiment super.
Je m'attendais pas à ça.
Il y a un truc sur Ryan Gosling qui prouve encore une fois qu'il a un génie comique, enfin, qui est plus à prouver, parce que depuis qu'on a vu The Nice Guys et Barbie, en effet, l'année dernière, il a plus rien à prouver de ce côté-là. Mais qu'est-ce qu'il est drôle, quoi. Enfin, il y a un truc sur toutes les situations, même quand il essaie d'ouvrir une porte pendant 5 minutes, on pourrait se marrer et regarder le truc pendant 2 heures.
Il est drôle dans son expression orale, la façon dont il va d'un coup lâcher une réplique ou un dialogue où à chaque fois ça tombe juste. Et comme tu le disais aussi, dans son expression physique, il joue avec le corps. Et alors, en plus, avec ce film, je trouve que c'est encore plus à propos, parce que c'est effectivement comment est-ce que le cinéma utilise les corps de ses acteurs pour les faire tomber d'un immeuble, pour les jeter contre des voitures, contre des vitres.
Jusqu'à l'usure totale.
Exactement. Et là, je trouve que ce soit dans le cas des cascades et du côté dangereux même de la profession, ou pour aller plus loin, dans la façon dont Ryan Gosling s'empare du rôle pour en faire de la comédie, dans les deux cas, il est avec ce physique qu'il met au service du film, et à chaque fois, ça marche.
Mais c'est vraiment ce mélange des genres qui est super. Mmh. C'est la comédie, l'action, la romance, en effet, entre les deux, qui est géniale.
J'aime beaucoup la scène d'intro, par exemple, qui est à la fois spectaculaire,
le plan séquence.
Exactement, tout en étant anti-spectaculaire. Mais il y a, pareil, un joli mélange cinématographique.
Dans l'envers du décor, d'un plateau de tournage.
D'une scène qui va jusqu'à un certain point, qui fonctionne très bien et qui donne le ton du film avec cet hommage, pareil, j'ai pas envie de trop en dévoiler, mais cet hommage appuyé au métier de cascadeur.
Non, clairement. The Fall Guy, c'est donc un film à découvrir en IMAX, en 4DX, en ScreenX, en Dolby Cinema chez Pathé. On se parle maintenant de Jusqu'au bout du monde avant de rencontrer Viggo Mortensen. Jusqu'au bout du monde, c'est donc un film réalisé par Viggo Mortensen qui partage l'affiche avec Vicky Krieps, et on s'en parle tout de suite.
Comment était ta guerre?
Pas comme je l'imaginais. Et la tienne?
Va-t-il poser un problème?
Je ne crois pas, non.
Cette ville est notre poule aux œufs d'or!
Je n'ai jamais voulu être sauvé.
C'est quel type de western jusqu'au bout du monde ?
C'est un western sensible. C'est intéressant en fait la manière dont Viggo Mortensen arrive à s'approprier à la fois les codes du western, c'est-à-dire un saloon, une histoire de vengeance, un shérif, des magouilles politiques, et en même temps à en faire que le cadre d'un film pour au final se concentrer plus sur son héroïne qui est interprétée par Vicky Cripps en fait, et sur ce couple à la rigueur.
Et qui est fantastique d'ailleurs dans ce rôle-là, parce qu'elle joue un rôle qui est ultra important dans le film, puisque tout tourne autour d'elle presque.
Tout tourne autour d'elle.
Et on sent que c'est ça aussi la force du film d'ailleurs.
Bien sûr.
C'est assez inattendu, c'est pas quelque chose auquel je m'attendais en fait, ce rythme-là. Et c'est intéressant parce qu'il y a à la fois ce rythme très lent où en fait, ça y est, ils sont au bout du monde, ils sont isolés, et pourtant le film arrive à avoir une assez bonne dynamique en fait, en jouant sur plusieurs échelles. Et ça construit et déconstruit le genre en fait, c'est ça qui est intéressant.
Je trouve ça intéressant de voir comment il place, comme vous le mentionnez Vicky Cripps, comment il place ce personnage-là vis-à-vis de lui-même ou... Comme dans son précédent film Falling, il se met en retrait pour laisser un autre acteur ou là une autre actrice la place de briller à travers la mise en scène, le texte, la façon dont il va la filmer, la regarder, la suivre tout au long du film. Et ça, parce que donc c'est son deuxième film qu'il réalise après Falling en 2020. Et je trouve que c'est vraiment une thématique ou alors une façon de faire qu'on retrouve de laisser la place tout en étant dans le film et d'avoir un rôle quand même important, principal.
Clé, oui, bien sûr.
Et à avoir cette intelligence de subtilité, d'être en retrait pour arriver au bon moment, délivrer ce qu'il faut et être présent par tout le reste. Parce que donc il écrit, il réalise, il joue, il produit,
il fait
la musique. Mmh. Donc il y a vraiment quand même une implication totale de sa part. Et là, avec un genre qui l'affectionne tout particulièrement, le western, comme on disait, et qui est... Oui, revisiter d'un côté tout en ayant conscience des codes et en les appliquant pour le mieux.
Mais je trouve ça intéressant sur cette appropriation en fait, du western et cette réappropriation du western que les réalisateurs font aujourd'hui. Tu vois, on peut passer de Django, de Tarantino, à même Deadpool 8 dans un sens, à ce western hyper lent, poétique, où tu as la romance et une héroïne au cœur du film. Donc. C'est marrant à quel point on pensait que c'était un genre un peu mort, finalement, et qui repassionne des réalisateurs.
Mais ce qui est super aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, au-delà de l'aspect western, c'est la relation entre les deux, entre les personnages de Mortensen et de Cripps. Il y a un truc, je trouve, dans la simplicité et dans la beauté de leur rencontre, d'une part, et de leur relation, ensuite. On n'est jamais dans le mélo, dans la grande histoire d'amour qui va déchaîner les passions à travers les siècles. Je trouve qu'il y a un réalisme et une force là-dedans qui est vraiment très impressionnante. Que ça soit la première rencontre, quand ils se rencontrent dans un port, dans une ville portuaire, ou jusqu'ensuite leur relation qui va les emmener en effet jusque dans cette maison, dans ce petit village. Mais il y a un truc vraiment juste de simplicité qui est vraiment fantastique, juste dans le mécanisme de la relation
entre les deux personnages.
Ouais.
Parce qu'il y a quand même Je trouve que Viggo Mortensen utilise beaucoup le mutisme dans ses personnages, avec des personnages qui sont peu bavards, qui prennent le temps de parler, qui sont très silencieux et qui viennent juste dire ce qu'il faut au bon moment, même en faisant presque attendre la réaction en fonction de certains personnages. Et ça joue beaucoup dans la romance et dans la façon dont elle est construite.
Et je voulais rebondir sur ce que tu disais, Alexis, sur le fait qu'il y a cette simplicité dans leur relation. Je pense qu'aussi c'est parce que ces personnages se voient d'égo à égo, en fait, et c'est tout le propos du film aussi. Et c'est là encore où on parle d'échelle, c'est à quel point le genre du western, par exemple, ou même du film d'époque, parce que ça reste un film en costume aussi, peut te parler en fait de ton époque à toi. Et il s'en cache pas, il dit que son sujet c'est son héroïne, que c'est une héroïne qu'il la veut libre, donc il y a un aspect très féministe aussi. Je pense que c'est un film qui est nourri d'une Amérique post-MeToo, mine de rien. J'aime bien ce degré entre l'aspect contemporain en fait, du film et sa situation dans un Far West des années 1800. Quoi.
Et pour nous parler plus en détail de Jusqu'au bout du monde, on a la chance, le privilège, l'honneur, que dis-je, la
joie, plaisir immense,
plaisir immense,
l'émotion,
de partir à la rencontre de Viggo Mortensen, qui est l'invité de Séance Tenante cette semaine.
Est-ce qu'on récupère Gaël au passage?
On récupère Gaël au passage.
Allez,
on va le chercher et ensuite on va
le
ici. Et je crois que malheureusement,
mais il est pas en
on
verra. Il est pas en vélo?
Si, il est en vélo, ouais, malheureusement.
Bon, il nous rejoint là-bas.
Le mieux, c'est qu'on rejoint là-bas et on revient ici ensuite pour sur le débrief.
Allez, ça marche.
Viggo Mortensen est l'invité de Séance Tenante, c'est tout de suite dans le podcast. Viggo Mortensen, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de Jusqu'au bout du monde. C'est votre nouveau film qui sort cette semaine au cinéma. Tout simplement, pour commencer, j'ai cru comprendre que ce film est né grâce à une image de votre mère, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de ce film?
La première image qui m'est venue, c'est d'une petite fille qui jouait, rêvait dans une forêt. Oui. C'était le début de l'écriture.
Et comment vous en avez fait une histoire de cinéma? Comment vous en avez fait un scénario? Comment on en arrive à un film comme Jusqu'au bout du monde?
C'est mystérieux, mais c'est, bon, c'est 20% mystère et 80% du travail.
Et est-ce que depuis le début, depuis le moment où vous avez commencé à réfléchir à ce film-là, c'était pour vous obligatoire de le réaliser, de l'écrire et de jouer dedans, d'avoir ces trois casquettes-là, même de faire la musique finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi?
Pas de jouer, c'était pas l'idée au début et c'était trop tard dans le processus de la préparation. On avait trouvé l'argent, j'ai commencé à écrire en 2020 pendant la pandémie. Et c'était 2022, l'automne, qu'on a commencé à tourner, octobre, fin octobre. Mais c'était avec Vicky et un autre acteur, mais un peu avant d'aller au Mexique pour préparer le film, quelques mois avant le début du tournage. Et il a décidé de faire autre chose. Et puis, on a essayé de lui remplacer avec trois acteurs qui étaient acceptables pour le financement du film, mais ils n'étaient pas disponibles en ce moment. Et puis, ils m'ont dit, bon, si tu veux attendre jusqu'à 2023... quand ils sont disponibles, tu peux faire ça. Et j'ai dit non, je ne veux pas faire ça parce que il se passe que si on attend, il se peut qu'on ne va jamais faire ce film. Et j'ai une équipe des gens déjà préparés qui ont fait beaucoup de travail. On a fait tout le casting, on a trouvé les locations pour tourner, et je ne veux pas faire ça à mon équipe. Et puis j'ai dit, bon, là, je peux jouer le personnage, mais il faut, changer le texte un peu. Il va être beaucoup plus vieux que le personnage que j'avais imaginé. Et il faut que je parle avec Vicky, parce que c'est elle qui va jouer avec ce personnage d'Olsen, et voir si elle est d'accord avec cette idée. Et elle a dit oui, ça me semble normal, tu dois le faire. J'ai toujours pensé que c'est toi. Je dis bon, ok, mais je vais changer des choses. Quand je dis que je vais partir à la guerre, par exemple, dans le film, elle dit bon, tu es trop vieux pour aller à la guerre. Par exemple. Et puis, j'ai changé la nationalité, il est devenu danois, par exemple. C'était plus spécifique que... Bon, j'ai changé le rôle de cette façon. C'était comme ça, mais ouais.
Justement, jusqu'à quel point vous avez, on parle du personnage, enfin vous parlez du personnage, jusqu'à quel point vous avez infusé, vous avez mis des choses de vous dans ce personnage. Vous dites, il est danois, c'est effectivement un chevalier qui vient du Danemark, c'est un cow-boy qui préfère les fleurs aux flingues. Jusqu'à quel point il vous ressemble et vous l'avez écrit pour qu'il vous ressemble?
Non, c'est Vivienne qui aime les fleurs et Olsen aime Vivienne et puis il a acheté des fleurs et des arbres pour elle. C'est pas son intérêt, même si elle est capable de faire ce travail pour elle ou de commencer avec ce travail. Et puis c'est elle qui fait le jardin pendant le temps qu'il est, il est parti à la guerre. Bon, quand il devient danois, par exemple, j'ai pensé à des Danois que je connais, mon père, mon grand-père, les autres membres de ma famille, et puis des Danois que j'ai connus ou dont j'ai entendu parler ou que j'ai connus dans la littérature danoise ou le cinéma danois, l'histoire du Danemark, par exemple. Il y a un certain... façon de s'exprimer, le vocabulaire, le sense of humor. Il y a des choses, des gestes, des petites choses qu'on va apprécier peut-être plus au Danemark. Le public danois va comprendre des choses, c'est normal. C'est comme des Québécois qui vont comprendre des choses, la façon de parler ou de s'exprimer en anglais et en français de Vivienne, par exemple, que c'est pas la même chose que pour un espagnol ou même le public français. C'est un peu différent. Ce sont des détails. Et ça aide à donner une apparence, disons, vraisemblable de historiquement fidèle. C'était l'idée. Par exemple, le fait que Vivienne parle en français avec son enfant, même s'il n'y a pas des autres personnes dans ce village, dans cet endroit, qui parlent français. Elle parle naturellement en français avec le garçon. Et moi, je parle en danois, de temps en temps avec lui. Et ça donne des layers, des couches à l'histoire. Et c'est... généralement, l'idée c'était de faire un film, un western classique, disons, en respectant les codes du western, la photographie simple, élégante, sans attirer beaucoup d'attention au travail du caméra, la façon dont la caméra montre les endroits qu'on voit, les paysages. Et c'était ça, et je crois que c'était historiquement, il y a une fidélité quand on montre que les États-Unis, en ce moment, même dans l'Ouest, dans le 19e siècle, que c'était une mélange des nationalités, des accents, des races, c'est normal. C'est seulement... Ben, dans la plupart des westerns classiques, même des bons westerns classiques, on montre pas ça. Les personnages principaux sont jamais des Mexicains, ni des Indiens, ni des Chinois. Ils sont là, mais au fond de la scène ou de l'histoire. Et je trouve que en ce moment-là, même que aujourd'hui, et pas seulement aux États-Unis, c'est seulement des nationalistes aveugles qui disent que bon, la France pour les Français ou les États-Unis pour les Américains, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas réel, ça n'a jamais été réel. C'est pas vrai. Et je voulais monter. Et c'est important, les vêtements, le saloon, l'architecture, les paysages, le vocabulaire des personnages. Tout ça, c'est aussi important de montrer la vérité de la population, de la société en ce moment.
Et quand vous reprenez le rôle justement du personnage, est-ce que votre regard sur la réalisation change par rapport peut-être à ce que vous aviez pensé avant, ou ça se fait naturellement, même si vous prenez le rôle justement ?
Non, j'ai changé, comme j'ai dit, quelques détails du personnage, mais non, l'idée, l'histoire que j'écris, c'est ça qu'on a tourné, plus ou moins. Et puis, on continue à écrire la dernière opportunité de réécrire, c'est le montage et puis le mixage du son. On continue à écrire jusqu'à la fin. C'est ça que j'ai fait. Mais l'idée, c'est que j'ai appris des bons réalisateurs et des bonnes réalisatrices dans ma carrière. Il y a deux choses qui sont très importantes. C'est de se préparer collectivement, très bien, le mieux possible, et puis de rester ouvert, d'écouter les autres, d'être conscient du fait qu'une bonne idée peut arriver de n'importe qui, de n'importe où, pendant le tournage. Et on a une seule opportunité pour raconter cette histoire, cette scène, chaque jour, et il faut utiliser tout qu'on a. Les gens, ils sont disponibles, et si on donne l'impression à l'équipe que sa participation est importante, ils vont se mettre dans l'effort collectif de raconter l'histoire. Beaucoup mieux que si on ne reste pas ouvert. J'écris ce scénario, ça doit être comme ça, et je ne veux pas changer un mot. On peut faire un bon film, mais le film va toujours être mieux si on reste ouvert aux autres.
Et quelle expérience de tournage ça a été pour vous, jusqu'au bout du monde ? Parce que vous avez repris beaucoup des gens avec qui vous aviez travaillé sur Falling, si je ne dis pas de bêtises.
Bon, le directeur de la photographie, Marcel Ziskind, Anne Dixon, Costumes, ouais. Carol Spear et Jason Clark, qui ont fait le production design.
Quelle expérience ça a été justement pour vous de retrouver cette équipe-là pour partir sur un western, un grand spectacle, avec une histoire intime au milieu de tout ça ? C'était quelle expérience de vie pour vous, tout simplement, en tant que réalisateur et en plus en tant qu'acteur ?
Moi, c'était important de travailler avec eux parce qu'ils sont bons. Et Anne Dixon, Carol Spear, par exemple, on a partagé, et Jason Clark, et aussi Marcel Ziskind, et l'éditeur aussi, puis Peter Pedersen, un Danois, qui a travaillé avec moi dans le premier film. On a beaucoup travaillé avant le tournage ensemble. J'ai partagé plein des idées, des scènes, des films, des westerns, même des mauvais westerns. Par exemple, j'avais dit à Carol et à Anne Dixon, par exemple, c'est un mauvais film, mais regarde la lampe ou les chaussures. Pistolet ou quelque chose. Et on a utilisé tout ce que j'ai appris dans la vie, je suppose, et des westerns. J'ai utilisé ça sans avoir une idée conceptuelle ni académique, sans y penser. Je suppose que tout ce que j'ai vécu dans ma vie et tous les films que j'ai vus, ça va m'influer, c'est normal. Mais j'étais conscient de partager certaines choses et de parler avec Marcel, par exemple, que de la photographie, que même si tu as besoin, tu as envie d'avoir la grue pour tout et de faire... c'est une opportunité très rare de faire un western. Je ne veux pas faire ça, je ne veux pas réinventer le genre. L'idée, c'est de raconter quelque chose de différent dans ce genre, que c'est une histoire où on se concentre sur le personnage féminin principal et de rester avec elle quand son partenaire masculin part à la guerre. C'est déjà très différent. Et on va comprendre ça et apprécier ça beaucoup plus si c'est dans le cadre d'un film traditionnel, un western classique.
Justement, je voulais savoir quel est votre rapport au western, au genre western. Est-ce que c'est un genre qui vous a nourri, qui vous a fait grandir? Enfin, qu'est-ce que vous aimez au fond dans le western?
Bon, comme beaucoup des garçons de ma génération, j'ai grandi avec des nombreux westerns. En ce moment-là, on pouvait voir des séries westerns à la télé. Il y avait toujours, on pouvait aller au cinéma et voir des westerns, pas beaucoup. C'était la fin de cette période de 50 ans, disons, plus ou moins, où on a fait, ils ont fait 7000 westerns, peu après. Et la plupart, la 15% ou plus, des mauvais films, pas très originaux, ni intelligent, ni... Mais il y a quelques-uns qui sont de la poésie, de belles histoires, bien racontées, bien filmées, bien jouées, réalisées. Et... Bon, j'ai grandi avec ça, et j'ai grandi aussi avec des chevaux, très jeunes. Parce qu'en même temps que je suis allé au cinéma la première fois, quand j'avais, disons, 4 ans avec ma mère, je suis allé au cinéma voir des films. J'avais déjà commencé à monter à cheval. Et c'était une chose que j'aime toujours. J'aime aller au cinéma, j'aime monter à cheval. C'était logique de faire un western dans un certain moment.
Et vous parliez de vos références, de grands films de western parmi tous ceux qui ne sont pas forcément extraordinaires. Mais c'est lesquels, justement, ceux que vous pourrez garder?
Il y a plein de bons films dans ce genre. Mais j'aime les films, quelques films de John Ford, The Searchers, ce n'est pas mon film préféré, même si on parle toujours avec ce film. J'aime The Man Who Shot Liberty Valance, ou même Stagecoach, My Darling Clementine. Ce sont des films que j'aime plus que The Searchers, par exemple, mais il est un dieu dans ce genre, disons Howard Hawks.
Bien sûr.
J'aime son travail généralement parce qu'il est très flexible, il est capable, et j'aime la façon qu'il... sa vision, la photographie dans ses films, c'est simple, élégant, efficace. Bud Bedeker, Anthony Mann, Wellman, quelque chose de Robert Aldridge, mais pas seulement des Américains, il y a de Jacques Tourneur, André de Toth, il y a des autres. Il y a des nouveaux westerns aussi, relativement nouveau western de Eastwood ou de temps en temps. Sergio Leone, c'est une chose à part, c'est un autre genre. C'est l'inverse à ce que je voulais faire photographiquement. Là, on attire l'attention beaucoup au travail du caméra. C'est son choix, c'est beau de voir ça. Once Upon a Time in the West, il y a des choses qui sont incroyables, des personnages qui sont incroyables. Mais c'est un peu la différence entre le théâtre et l'opéra, par exemple. C'est différent. Mais j'aime le western classique traditionnel. Et je trouve qu'une histoire d'une femme forte, indépendante, libre, placée dans ce moment, dans historiquement... dans un endroit hors la loi, dominé par des hommes, le contraste entre ça et l'histoire de cette femme, je trouvais ça intéressant, qu'elle est en train de s'ouvrir la frontière, personnellement, pour elle-même, au moment et dans un endroit où la frontière était toujours ouverte, dominé par des hommes. C'était intéressant, je pense.
Et alors, on a tous vu le film, on a tous beaucoup aimé, et on a une petite tradition. Merci à vous d'être là et de nous le proposer, de nous le montrer, et qui sort en France au cinéma, sur grand écran. On a une petite tradition dans le podcast, quand on rencontre certains des talents, c'est de leur écrire une petite lettre. Et aujourd'hui, Robin, vous avez écrit une petite lettre qu'il va vous lire, Viggo Mortensen, et je te laisse la parole, Robin.
Merci beaucoup, Alexis. Alors, cher Viggo, quand l'occasion de vous parler s'est présentée, à l'occasion de votre nouvelle réalisation, j'ai tout de suite eu envie de vous adresser ces quelques lignes et d'évoquer pourquoi votre travail a depuis toujours eu une réelle importance à mes yeux. Préparer cette rencontre, c'est donc avant tout se replonger dans vos films, que cela soit par le souvenir ou par la découverte, et dans les autres formes d'expression artistique que vous pratiquez. Et une première question me vient. Comment aborder votre art ? Que vois-je dans les films, les photos, les peintures, les écrits ou la musique ? En y regardant de plus près et en revenant avant tout au cinéma, je constate à quel point vous vous êtes glissé dans la peau de personnages venant d'horizons très différents. Père, fils, mari, ami, cow-boy, soldat, shérif, bandit, rôdeur, capitaine, roi. Des personnages forts, complexes, souvent abîmés par la vie et dans lesquels vous parvenez à mettre une émotion touchante. Et peut-être est-ce une interprétation abusive de ma part, mais en repensant à vos films, j'ai avant tout l'image d'un homme qui marche. Comme si le mouvement faisait partie de votre carrière à part entière. Des hommes qui marchent vers un futur incertain, qui fuient un passé douloureux ou qui tentent de l'accepter. Toujours avancer, ne jamais rester immobile. Je pense à La Route, évidemment, mais aussi à vos films avec David Cronenberg comme A History of Violence. Je me remémore le road trip Green Book, le désert d'Hidalgo, de Loin des Hommes, la fresque Capitaine à la Tristée ou le retour à la civilisation forcée dans Captain Fantastic. Je vois enfin la Terre du Milieu, The Middle Earth, et le long parcours d'un homme destiné à devenir roi. Avec Falling et maintenant Jusqu'au bout du monde, vos deux réalisations, le mouvement, qu'il soit physique ou thématique, semble être aussi au cœur des films. Accepter un passé ou parcourir les plaines sauvages à cheval vers un nouveau futur. Cette idée d'avancer, je l'aperçois en tant que spectateur. Je ne sais jamais vers quoi vous allez m'amener. Et c'est pour ça, finalement, que votre œuvre, dans son ensemble, est importante à mes yeux. En cultivant la découverte, la nouveauté, la curiosité, le voyage, l'expérimentation, j'avance également sur le long chemin de l'art et me questionne. Il me faudrait des heures pour évoquer les autres domaines et les thématiques de votre carrière. Alors simplement pour conclure, je repense à cette phrase que votre personnage d'Aragorn dit à Frodon en lui refermant la main. Car oui, je ne l'ai pas trop évoqué, mais c'est bien en Aragorn que je vous ai découvert pour la première fois avec mon frère, alors que nous étions très jeunes, éternellement marqués par l'empathie, l'héroïsme et la compassion de votre interprétation. « I would have gone with you to the end », dit Aragorn à Frodon. En ce qui concerne l'art et la culture, j'ai pour ma part envie de vous dire, Viggo, que je vous suivrai aussi jusqu'à la fin, quel que soit le lieu où votre expression artistique m'amènera.
Bravo !
Wow. Merci pour tes mots, merci pour le voyage, et merci à la France cinéphile. C'est qu'en France qu'on peut vivre ça. Merci, merci beaucoup.
Merci Robin.
J'aimerais avoir une copie de...
Je peux vous le laisser, avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Mais justement, ce que disait Robin sur votre longue filmographie, vos nombreux personnages et aussi tous les réalisateurs que vous avez croisés, avec lesquels vous avez travaillé dans votre vie. On pense à Cronenberg, Peter Jackson et beaucoup d'autres.
J'ai eu de la chance.
Tout à fait. Et du bon goût aussi dans les choix des rôles. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, justement, à votre casquette de metteur en scène pour des projets comme Falling dans un premier temps et Jusqu'au bout du monde? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Qu'est-ce que ça a vous apporté, ce contact avec ces grands metteurs en scène-là, au fil de votre carrière?
Bon, les deux choses, comme j'avais dit, que j'ai appris spécialement de David Cronenberg, mais aussi de Matt Ross, Jane Campion, Lisandro Alonso, Ron Howard, et tant des autres. Même s'ils sont très différents, ces méthodes sont différentes, il y a deux choses qu'ils font tous, et c'est la préparation, maximiser le période de préparation pour arriver plus ou moins décontracté et ouvert au premier jour du tournage. Et puis rester ouvert aux idées des autres, aux accidents, pour mieux faire ce film, raconter cette histoire. Et il y a une chose que j'ai eu la chance de connaître trop tard dans sa vie, Agnès Varda. J'ai eu une conversation avec elle de 3 heures dans un avion et une heure ou une demi-heure avant de partir dans l'aéroport de Marrakech. C'était un vol à Paris. Et elle m'a demandé, on a parlé du cinéma, j'ai parlé de ses films, j'ai posé plein de questions. Et elle a été très gentille, elle a répondu à tout, même si elle était un peu épuisée. C'était quelques mois avant sa mort. Et elle m'a demandé, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, ton prochain rôle ? Et j'ai dit non, je vais réaliser mon premier film dans quelques mois. Je vais commencer. On va tourner au Canada. Ah, c'est bon. Bon, n'oublie pas de ne pas montrer des choses au public. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un film. Il faut montrer des choses. Il a dit non, non, je te comprends. Mais ce que je veux dire, il faut pas montrer des choses, il faut donner envie de voir des choses. Et c'est différent. Et je me souviens toujours de ça. Et c'est un exemple.
Alexis citait justement les réalisateurs avec qui vous avez travaillé. Des réalisateurs ont des obsessions aussi. Je voulais savoir si l'Amérique faisait partie de vos obsessions en tant que réalisateur, mais même en tant qu'acteur, parce que Robin, par exemple, citait Green Book. On parle de Falling qui, quand même, représentait une Amérique fracturée. Là, on a cette conquête de l'Ouest, du rêve américain. Est-ce que l'Amérique, à différentes époques, on peut considérer que c'est une thématique qui vous touche, à laquelle vous tenez finalement et que vous voulez dépeindre dans votre cinéma? Si c'est non, c'est non, c'est pas grave.
Non, mais on peut parler de la même chose. Ce qui m'a attiré Loin des hommes, par exemple, c'est la France et l'Algérie.
Bien sûr.
C'est pas l'Amérique, mais c'est les mêmes problèmes, les mêmes questions. C'est l'humanité, c'est les conflits entre les humains, les difficultés de comprendre les autres, les obstacles à la communication, les conséquences de la mauvaise communication ou de la manque de communication. C'est ça qui m'occupe plus que un pays.
Plus qu'un pays.
Ouais, je crois, à mon avis. Et la famille, mais ce que j'ai vécu, j'ai grandi avec une mère et un père. Et ça m'a donné, ça m'a inspiré à l'heure d'écrire Falling, d'écrire ce film, Jusqu'au bout du monde, même si c'est pas une histoire autobiographique, il y a des choses, des images, des idées, des sentiments que j'ai reçus de ma famille, de mon enfance.
Dans Falling, on voit dans un tout petit rôle, il y a David Cronenberg. J'aurais adoré le voir avec un chapeau de cow-boy, moi. Vous lui avez pas proposé un rôle pour Jusqu'au bout du monde ?
Il y avait un moment, il y avait un personnage, le juge, par exemple. J'avais pensé, mais on avait l'opportunité de travailler avec un grand acteur qui était parfait, et sa façon, honnêtement, sa façon de parler, il vient du sud-est des États-Unis, le rythme, le ton, l'accent et le talent de Ray McKinnon, c'était parfait pour le rôle. Il y avait un moment que j'ai pensé à ça, même, mais je sais pas s'il aurait pu faire le rôle, parce qu'il était en train de préparer son prochain film, un film qu'on va pouvoir voir, je crois que prochainement, je sais pas.
Bientôt, hein.
Ouais, j'espère. Et ben, mais c'était une idée. Ouais, il y avait un moment où j'ai pensé, et s'il fait ça, Mais je crois que, Ray McKinnon était parfait pour le rôle, vraiment. Mais Cronenberg était parfait pour le docteur dans Falling. C'était génial, génial dans ce film.
Et peut-être une petite question sur la musique. Vous composez donc la bande originale également du film. C'est quel travail pour vous d'imaginer votre histoire en musique et d'accompagner les images et les mots avec justement des thèmes?
Bon, pour ce film, c'est très important. J'aime pas quand dans un film, la musique ou l'écriture ou le jeu ou la réalisation souligne, te raconte ce que tu dois ressentir ou penser. J'aime pas ça. Mais la musique peut être très utile dans un film. Et dans un western classique, essayer d'inventer des thèmes, de la musique qui ressemble à la musique qu'on a pu écouter dans le 19e siècle avec des racines irlandaises, causées, mais aussi influence, ouais, surtout ça. Et de, je sais pas comment on dit ça en français, Appalachia Sound, ou des sons qui venaient de l'Europe au Nouveau Monde, au Québec, le sud-est des États-Unis, les influences musicales de ce moment. Et j'ai trouvé, quand j'étais en train de participer au montage de Falling, que le travail de l'édition, du montage des images, c'était pas très différent. C'est presque la même chose que de monter la musique. C'est question de rythme, de durée, de ton. Bon, de la musique, quoi, avec les images. Les images vont te dire quand tu dois couper, quand tu dois faire la transition, la durée des scènes, comment faire les transitions, spécialement quand c'est question d'une histoire racontée d'une façon non linéaire. Et puis, j'ai composé et enregistré la plupart de la musique avant, tourné bien avant. Et ça m'a été très utile au moment de commencer avec, de tourner et de monter l'histoire. Je savais que certaines transitions, que la musique allait être très utile pour ça. Et pour la durée de nombreuses scènes, le rythme et la durée des scènes.
Et peut-être une dernière question pour terminer, qui est plus, je crois, une anecdote, mais je crois qu'il y a une histoire autour de l'épée dans les scènes du chevalier qu'on voit dans le film. Est-ce que vous pouvez nous la raconter?
Bon, on avait construit le personnage, disons, le vêtement, on a trouvé ça. Que l'idée, c'est la fantaisie d'une fille... 1838, au nord-est des États-Unis, pas la frontière canadienne, québécoise. Et les influences de cette fille, c'est la voix de sa mère, qui raconte des histoires des chevaliers, l'histoire de Jeanne d'Arc, et l'imagination de cette fille qui n'a jamais vu la France. Mais c'est un mélange des idées qu'une fille française, en ce moment, pourrait avoir, mais avec des influences propres de Vivienne. Et on avait tout. On avait trouvé le cheval, tout est la location, les vêtements du chevalier. Et j'ai dit, moi, je veux voir, il faut qu'il a... Bon, une épée médiévale pour le chevalier. Ils m'ont montré 4 ou 5 choses. Je dis non, c'est pas si bon comme le reste du personnage. Et puis j'ai pensé, bon, j'ai une. On peut utiliser ça. L'idée, c'est ça. J'ai dit, ah ben. Et si c'est ça, si on utilise ça, bon, je dois téléphoner à quelqu'un. J'ai parlé avec, j'ai écrit à Peter Jackson et puis à la compagnie de Warner. Je peux utiliser sans problème ça dans le film. Et la question, c'était bon, bah, c'est important, c'est l'histoire de l'épée. J'ai dit non, 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 c'est pas, c'est 2-3 secondes. On ne peut pas le voir, on ne sait pas que c'est ça, mais il y aura quelqu'un, c'est sûr. Dans chaque salle de cinéma, il y aura quelqu'un qui est un vrai fan de la trilogie, qui va voir ça et va savoir immédiatement. Et c'est pour ça que je vous demande si je peux l'utiliser. Ils ont dit, bah, si ce n'est pas l'histoire de l'épée, The Dead Don't Hurt, bah, tu peux l'utiliser sans problème. C'était comme ça.
Viggo Mortensen, merci beaucoup d'avoir
été
avec nous aujourd'hui.
Merci pour le cadeau de la conversation. Et comme je dis, vive la France cinéphile, c'est merveilleux.
Merci beaucoup de votre temps. Et Jusqu'au bout du monde, ça sort cette semaine au cinéma. Merci beaucoup. Ça va Robin ? Pas trop ému ?
Excusez-moi, il me faut un petit moment. Non, c'était super. Je suis trop heureux de ce qui s'est passé. C'était un chouette moment de pouvoir échanger sur son film, sur sa carrière, sur sa façon de travailler. Super. Voilà.
Super, tout simplement.
Super.
À noter qu'il est reparti avec la lettre que tu lui as écrite.
Il est reparti avec la petite lettre que tu lui as signée à la fin.
Que tu lui as dédicacée.
Effectivement.
Donc, ça te fait quoi, tu as une dédicace à Viggo Mortensen Pour l'ego, on est comment, là?
J'en trouve pas les mots. je trouve ça super, en fait, la façon dont il reçoit les choses qu'on lui dit et dont la façon dont il réagit aussi. Je pense qu'il a bien conscience de comment les gens le perçoivent et de la carrière immense qu'il a réussi à construire, et tout en gardant cette simplicité dans la façon de faire. Et voilà, c'était super.
C'était vraiment un très beau moment. Merci Robin pour ce joli débrief.
Mais merci à toi. Je suis encore tout chamboulé de ce moment.
Je vois ça. Cette semaine aussi à l'affiche, le Tableau Volé, notre label L'Autre Regard. Parlons des bonnes raisons d'aller voir les deux films que nous avons largement évoqués aujourd'hui, à savoir The Fall Guy et Jusqu'au bout du monde. Lisa, pourquoi faut-il aller voir The Fall Guy, l'adaptation de L'Homme qui tombe à pic, bien sûr, au cinéma.
Pour son aspect qui brise le quatrième mur et qui nous invite dans les coulisses du cinéma.
Et Robin, pourquoi faut-il y aller ?
Moi, je dirais pour l'inventivité de David Leitch dans la façon dont il s'amuse avec l'action et avec les différents genres d'action.
Pour le duo comique composé par Ryan Gosling et Emily Blunt, qui forment un truc, je trouve, vraiment détonnant à l'écran, chacun dans leur rôle. Ils sont ultra complémentaires. Le couple marche, je trouve. Il y a un truc, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne. Au final, ça fonctionne. Les deux sont très drôles. Ils sont ultra touchants et ils font un très joli couple de cinéma. Pourquoi faut-il aussi aller voir Jusqu'au bout du monde au cinéma, Lisa ?
Pour son aspect féministe et qui prône la liberté d'une femme à une époque où c'était très compliqué de l'être.
Robin ?
Alors, il y a beaucoup de raisons, mais je dirais pour la façon dont Viggo Mortensen s'empare du western et arrive à le magnifier selon son envie et selon ses inspirations et son héritage cinématographique.
Et j'ajouterais pour Vicky Krieps, que je trouve vraiment bluffante dans le film, qui porte en effet un long passage du film seul, puisque pour des raisons qui sont évoquées d'ailleurs, je crois, par Viggo Mortensen dans l'interview, donc, parce qu'en effet, son personnage part en guerre, se retrouve seul à devoir gérer cette maison, devoir gérer cette vie dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Et je la trouve bluffante de sincérité, je la trouve vraiment bouleversante. Et c'est une très grande actrice, on le savait déjà, mais elle est vraiment super dans un film, dans un western comme celui-ci, dans Jusqu'au bout du monde, qui est donc à découvrir cette semaine chez Pathé. Dans l'actu des cinémas Pathé, Star Wars La Menace Fantôme sortira le 4 mai dans le cadre des séances Cinéite à l'occasion des 25 ans de sa sortie au cinéma en France, et aussi le 4 mai, du 4 au 5, le marathon Star Wars avec les 9 films de la saga Skywalker. Les 9 films proposés donc à Plan de Campagne à Marseille, au Pathé Rennes et à Bellecour à Lyon. Les 9 films pour 66€, l'intégralité de la saga Skywalker. Donc merci beaucoup Lisa, merci beaucoup Robin,
merci beaucoup
Alex d'avoir été ici autour de la table. Merci à Gaëlle d'avoir été là pour l'interview de Jusqu'au bout du monde avant de nous abandonner lâchement pour partir vers de nouvelles aventures. En tout cas, en parlant d'aventures, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.